sont les mots qui me viennent. Je ne suis que le porte-parole de la mienne. Et oui, je siffle la Marseillaise et je te baisse, c'est comme ça. Tout comme les hommes d'État évitent les QHS. Avec nos euros en plus, quand c'est trop chaud pour leurs fesses. Au nom de quoi, mais je déstresse. Un verre de rhum plus Coliba comme Vergès. La vie vaut la peine d'être vécue. Honnêtement, qui l'eût cru, mais comment veux-tu? À part à Monaco, avoir mes coins de paradis fiscaux à jardiner. Même avec les RG au cul toute la journée. Quitte à porter le chapeau quand on m'auditionne. Autant que ce soit comme Al Capone. Des ferlandes de contrebande de rap. Depuis que les gens ont des oreilles. Je me prive de sommeil, écris des petites merveilles. Reprends des rimes vieilles de 4 ans, devant lesquelles la concurrence bégayera. Mais reviendra en travaillant, sûrement aussi du père. Nous on écoute que nos potes et c'est super. Longue vie à eux, aux gars de leur test. Y'a pas 36 000 façons de verrouiller le business. Plus ils nous emprisonnent, plus je leur empoisonnerai la vie. Heureux dans mon cliché, moins ils nous cautionnent. Plus ils vont en chier, man, verront qui est kiss, man. J'aurai toujours mon mot à dire, je vais pas te mentir. Et même s'il faut que je te marche dessus, ok, j'ai pas dit que j'étais un exemple de vertu. Mais entre nous, qu'est-ce qui tient le monde? À part le fric et la politique, réfléchissez deux secondes. Rien, on est bien d'accord et je suis sérieux. On peut commencer à en parler comme des mafieux. Entourés de michetonneuses à nos bras. Si putes, si soumises, heureuses comme ça. Ce sont les mots qui me viennent. Que l'on accuse à tort d'inciter à la haine. De toute façon, y'a des hyènes, des chiens et des chiennes. Qui pour une place au soleil font la file indienne. Allo allo Skyrock, niquez vos races, bande de fils de pute. On veut des consoles de jeux et un peu d'alcool. Pour aller à l'école et arriver en retard. Quitte pas, je te passe le standard. Les jeunes n'ont plus de recul ou plus rien dans le crâne. Ou simplement les deux réfléchissent comme des ânes et agissent comme des bœufs. Nous on rêve de quoi? D'avoir des mômes qui fassent pas chier et se mettent au lit après manger comme des fonctionnaires. S'ils veulent du cash pour leur anniversaire. Parce qu'il est vrai qu'il existe en France un certain nombre de reptiles. Tapis dans l'ombre de mes bénéfices. Derrière mes amendes, celles c'est F et celles de la police. Bref, ma vie c'est pas le grand frisson qui vous rattrape, mais juste une bonne leçon de rap. Et oui monsieur, déjà prohibé d'entrée de jeu pour les appels à outrage et ceux à peine sortis des cartons d'emballage. Mes rimes sont belles comme des scènes de pillage. C'est pour ça qu'elles courent les rues malgré les barrages de flics.
Parlons peu, parlons cru.
Puisqu'on nous toise de la tête aux pieds, nous recommande de se taire, de se laisser palper comme si on avait la bombe nucléaire. Quitte à rapper autant que ça rapporte du fric et que la polémique rapplique, je suis habitué parce qu'elle taffera pour moi comme une prostituée.
Ce sont les mots qui me viennent, que l'on accuse à tort d'inciter à la haine. De toute façon, y'a des hyènes, des chiens et des chiennes qui pour une place au soleil font la file indienne.
Ce sont les mots qui me viennent, je ne suis que le porte-parole de la mienne.
Alors, on vient de s'entendre.
C'était La Rumeur.
La Rumeur, bien
sûr. Un petit coup de rumeur, comme la semaine dernière, un petit coup de rumeur, un petit album qu'on aime bien. Allez, ben, on retourne dans notre actu.
Voilà, le cannabis aurait donc des effets thérapeutiques. Et donc, il y a une étude américaine. C'est marrant parce que de la même étude, qui est moyennement complète, hein, c'est une analyse des essais menés sur 6500 participants. Mais ils ont vraiment analysé les résultats de 79 essais cliniques. Donc, qui portent, ouais, quand même. Donc, il y en a plusieurs. Et le point indique, l'étude révèle les effets limités du cannabis, donc c'est le grand titre là-dessus. Alors que dans 20 minutes, en Suisse, on parle des vertus thérapeutiques du cannabis reconnues, à partir du même article. Donc, ce qui est vrai, c'est que pour la sclérose en plaques et pour les douleurs neuropathiques chroniques, l'étude montre que pour cela, il y a des cannabinoïdes qui ont des effets bénéfiques, alors lesquels on n'en sait rien. Ensuite, sur les améliorations pour les cancéreux ou les nauséeux, alors là, ils sont moins sûrs. C'est plus subjectif, ainsi que pour les personnes souffrant d'insomnie ou de syndrome de la Tourette. voilà, leur jugement est plus limité. Alors, par contre, pour l'anxiété et la dépression, d'après cette étude, donc, aucune amélioration n'aurait été constatée. Voilà, donc après, donc le point, on continue avec un risque accru d'effets secondaires, évidemment. Il parle de d'étourdissement, de bouche sèche, de nausée, de fatigue, de somnolence, d'euphorie, de vomissement, de désorientation, de confusion, de perte d'équilibre et même d'hallucination. Évidemment, donc il existe, voilà, donc ça irait pas. Donc il faudrait leur dire que pour chaque symptôme, il faut une herbe particulière avec telle ou telle propriété.
Tel ou tel cannabinoïde.
Ouais, mais bon, ils s'en aperçoivent. On pourrait même leur dire que en Israël, ils ont trouvé du cannabis sans THC avec beaucoup de CBD qui aurait des très bons résultats sur les syndromes post-traumatiques, en particulier de leurs soldats, bon, voilà, etc., etc. Mais ils reconnaissent quand même qu'il y a quelques centaines de cannabinoïdes, donc 111, hein, donc on le sait depuis quelques temps. Différents, voilà. Donc, en tout cas, il devrait y avoir plus d'études dans les années prochaines, et les médecins disent, voilà, il est prudent d'attendre, et surtout, il ne faut pas confondre le cannabis thérapeutique avec le cannabis récréatif, bien sûr.
Même si parfois c'est le même.
Même si parfois c'est le même, alors, tout à fait.
Moi, ça m'appelle deux remarques. Alors, première remarque, en fait, quand on lit ce genre d'article, en fait, on a l'impression que tous les spécialistes du monde du cannabis et des cannabinoïdes, finalement, communiquent pas les uns les autres, on dirait.
Bah, voilà, tout à fait.
Parce que c'est même étonnant que cette étude qui soit faite aux États-Unis ne tienne pas compte des recherches qui ont été faites sur, je ne me rappelle plus quel labo ou quelle université aux États-Unis qui a mis en lumière justement le fait que le THC ou certains cannabinoïdes avaient un impact particulièrement puissant sur des cellules cancéreuses. Là, on n'en parle pas finalement ou...
ouais, là, ils parlent d'effets cliniques. Hein. Ils ne font pas une étude sur toutes les recherches, même les recherches de pointe.
Oui, oui, bien sûr. Ouais.
Enfin, bon, et même, je pense que dans les études cliniques, toutes les, c'est pas exhaustif parce que je pense qu'il en existe beaucoup plus que 79.
Oui, oui. Enfin, on dirait que finalement, ça bloque à un endroit. Alors, du coup, ça m'appelle une deuxième remarque. C'est une info qui n'est pas dans notre revue de presse aujourd'hui, mais que j'ai lue cette semaine. C'est Obama, officiellement, qui s'est engagé justement à faire tout ce qu'il pouvait pour faciliter la recherche fondamentale ou la recherche médicale sur les cannabinoïdes et le cannabis. Donc ça, c'est une super bonne nouvelle. Ils vont normaliser, je dirais, les recherches qui sont faites sur les cannabinoïdes et le cannabis. Voilà, parce que c'est un peu ce que réclame l'un des docteurs, là.
Oui, tout à fait. Mais pour aller dans ton sens et même un peu plus loin, parce que de la même étude, il y a deux articles de presse différents. Et le deuxième, donc celui de 20 minutes en Suisse, donc, parle toujours dit un peu la même chose hein, sur c'est efficace contre la neuropathie chronique et contre les douleurs liées au cancer, les spasmes de la sclérose en plaques, voilà. Après, ils disent aussi la nausée provoquée par la chimiothérapie, la perte de poids chez les sidéens, les troubles du sommeil, le syndrome de Michel de la Tourette. Donc pour eux, là aussi, c'est positif. Alors que pour l'autre, pour cela, ce n'était pas prouvé. Et enfin, ils disent juste que ce n'est pas prouvé pour l'anxiété. Donc bon, c'est un petit peu limité. Et surtout, la conclusion est tout autre. C'est les résultats de cette étude montrent que le cannabis renferme un potentiel thérapeutique prometteur dans l'ensemble.
Oui, oui. Puis en plus, par rapport à la même étude, on s'aperçoit que d'un article à l'autre, les affections pour lesquelles c'est efficace sont pas les mêmes en plus.
Tout à fait.
Parce que là, dans l'article du Point, ça a pas d'effet pour le syndrome Gilles de la Tourette, alors que dans l'article 20minutes.ch, qui est un quotidien suisse, là, il y aurait un effet positif. Donc ça n'a rien y comprendre.
L'autre, quand on le lit bien, il dit ouais, c'est pas d'effet positif démontré. C'est-à-dire que ça n'a pas dû marcher à tous les coups. Peut-être que c'était pas la bonne herbe, que c'était une herbe qui n'avait pas le bon cannabinoïde. Voilà.
Ouais, mais ouais, ouais.
C'est ça qu'il faut se poser, que nous, on va se poser comme question. Et c'est l'autre, et là-dessus, l'autre, il passe rapidement, quoi. En disant, il y a eu des effets prouvés, donc c'est bénéfique.
Alors après, dans l'article de 20minutes.ch, voilà. L'organisme qui dit que c'est efficace, c'est l'Office fédéral de la santé publique.
Oui, quand même.
Voilà,
oui,
donc c'est pas fait. Non plus la recherche qui dit que. Mm-mm. C'est l'Office fédéral de la santé publique.
Mais bon, voilà. En tout cas, ce qui est eux aussi, l'article de 20 minutes donc, conclut qu'il faut des études complémentaires avec des études avec placebo, avec voilà, des effets divers pour voir. On va continuer avec notre sujet suivant. Donc, c'est dans Le Monde et Société, un article de, du 24, donc de la semaine dernière, sur le Conseil économique, social et environnemental, le CESE, qui réclame un débat public sur le cannabis. Donc c'est bien, quoi, ça fait plaisir.
Après
le Sénat, ça relance un petit peu les choses en France.
Le début de l'article est plutôt enthousiasmant, la fin est carrément beaucoup moins, je trouve.
Oui, mais bon, néanmoins, il rappelle que la France devrait se forger une position, puisqu'il rappelle qu'il y a des débats à l'Assemblée, à l'ONU, qui sont prévus courant 2016.
Oui, la fameuse Assemblée générale sur les drogues.
Voilà, et donc un débat public sur l'échelle des sanctions devrait se poser aussi en France. Hein. Il faut commencer à réfléchir et à poser la question des sanctions contraventionnelles. Voilà, donc il rappelle quand même qu'en France, pays où on consomme le plus en Europe, alors que la législation est une des plus répressives. Donc c'est sans doute pas la bonne solution. Et il rappelle qu'à l'échelle mondiale, la légalisation gagne du terrain, comme en Uruguay ou dans certains États des États-Unis, la Colorado et Washington. Donc c'est bien, ça fait des rappels hein, pour tout ça. Et rappelle ce qui s'est passé donc au Sénat avec Esther Benbassa. Il rappelle qu'il y a eu des think-tanks comme Terra Nova qui ont pointé l'échec de la politique de répression. Et ils finissent par tout un article sur la prévention. Donc, c'est quand même c'est un article intéressant du CESE. Hein.
Oui, qui paraît intéressant. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec toi. Parce que, l'article est intéressant, mais les propositions... Enfin, si on lit l'article jusqu'au bout, on déchante quand même pas mal, parce que...
C'est mesuré, mais un long voyage commence par un petit pas.
Oui, t'as raison, je peux toutefois comprendre ça, mais encore une fois...
Il faut être très prudent en politique, parce que tu sais que dès qu'on avance trop vite, on se fait traiter de laxiste. Donc je trouve que c'est une position très posée, et qui a au moins l'avantage de reposer le débat. Voilà, donc après il reparle des pourcentages de Français qui consomment, qui a augmenté, voilà. Donc il faut avancer et il rappelle qu'actuellement, lorsqu'une personne est interpellée, il n'y a pas forcément un suivi. Voilà, donc il faut qu'il y ait une sanction suffisamment applicable et appliquée et on pourrait déboucher sur un suivi éducatif.
Donc il faut réprimer. Donc finalement, ça ne change rien.
Après, va savoir ce qu'ils appellent par suivi éducatif.
Ah non, mais attends, tu ne le dis pas, donc je vais le dire.
Mais bon, d'un autre côté, moi je vois aussi la fin. Vas-y. Bon, je vais finir sur la fin de l'article qui disent qu'il faut aussi regarder toutes les maladies dont la souffrance liée aux addictions, donc l'alcool, le tabac, la drogue, les jeux d'argent, les jeux vidéo. Donc en fait... Ils finissent quand même qu'il faut lever la stigmatisation qui pèse encore sur les addictions afin que les personnes demandent davantage d'aide et de soutien. Donc on est bien dans l'addiction et c'est là aussi que c'est intéressant. C'est donc on est sur le comportement.
Ça paraît,
et c'est vrai que pour tous ces produits-là, il y a l'usage et l'abus. Et c'est vrai que pour pouvoir aider les gens qui sont dans l'abus, il faut légaliser l'usage et vraiment considérer l'addiction comme une réelle maladie.
Voilà, donc je ne suis pas tout à fait du même avis, alors je vais donner mon avis.
Je t'en prie.
C'est encore un peu toujours pareil, après je veux bien admettre qu'il y ait un mouvement. Voilà, un mouvement, hop, mais très vite on revient à l'endroit initial, donc finalement ça ne sert à rien. Mais ça démontre à quel point nos politiques sont complètement bloquées sur cette question. Puisque effectivement, on lit qu'il faudrait changer et puis qu'on ne peut pas rester comme ça. Et du coup, ça laisse augurer d'une possibilité de changement, ou en tout cas que ces gens éventuellement imaginent un changement. Mais bon, très vite dans l'article et à la fin de l'article, on nous dit que pour sensibiliser les usagers, ça passe par le maintien d'un interdit fort. Voilà. un interdit fort. Alors comment, moi je me demande comment on peut résoudre cette équation qui est basée sur, d'un côté, maintenir un interdit fort et de l'autre, lever la stigmatisation qui pèse sur les addictions. C'est absolument contradictoire.
Bah, et oui, c'est vrai qu'il commence l'article par la contrafonctionnalisation, hein, je suis d'accord. Mais donc, on peut le voir à double détente aussi l'article. Moi,
une contravention, ce n'est pas un interdit fort.
Oui,
c'est pas
oui,
ça un interdit fort. Un interdit fort, c'est des arrestations, c'est des poursuites judiciaires pénales et des condamnations. Et on n'en change pas. Et pourquoi elle dit qu'il faut maintenir un interdit fort ? Ben toujours avec tout ça basé sur des stéréotypes et des pseudo-informations, comme quoi le cannabis serait aujourd'hui beaucoup plus puissant, plus addictif qu'autrefois, et donc il faut maintenir un interdit fort, et notamment par une sanction pénale systématique. Alors qu'actuellement, lorsqu'une personne est interpellée, il n'y a pas forcément de suivi, constate-t-elle. Alors qu'avec une sanction suffisamment applicable et appliquée, on pourrait déboucher sur un suivi éducatif. Voilà. Tout ça, c'est très contradictoire et ça démontre d'une part l'ignorance de ces personnes sur la réalité actuelle et sur le fait qu'en France, on est l'un des pays où on interpelle le plus d'usagers. Et le plus d'usagers numériquement, ça veut dire quoi ? Ça veut dire 150 000 personnes qui sont interpellées pour le cannabis. Si on met toutes les drogues, c'est quasiment 200 000. Et contrairement à ce que dit Madame Balalou, parce que c'est son nom, Madame Gisèle Balalou, effectivement, il y a beaucoup de personnes qui sont arrêtées et qui passent à travers les mailles de la condamnation. Et cela, généralement, souvent parce qu'ils sont blancs, hein, et que la guerre aux drogues, c'est une guerre raciale, on continuera jamais à le dire, on n'arrêtera jamais de le dire. Et que par contre, il y a beaucoup d'usagers qui sont interpellés. Eux, généralement, ils ne passent pas à travers les mailles du filet et ils se retrouvent en prison. Et que c'est pour ça qu'il faut mettre un terme à cette guerre et qu'il faut mettre un terme justement au maintien d'un interdit fort. Il faut mettre un terme à ça.
Là-dessus, je suis tout à fait d'accord.
Donc, encore une fois, je trouve que c'est très contradictoire ce qui se dit là.
Tout à fait. Je trouve qu'elle avance d'un pas et d'un autre côté, elle bloque. C'est comme si... c'est très contradictoire.
C'est très symptomatique.
J'étais passé un petit peu à travers cette phrase.
Mais voilà,
et j'avais vu les aspects positifs. Je suis toujours un don naturel optimiste.
Ouais. Merci de... Et du coup, je joue mon rôle de pessimiste, comme souvent. Mais voilà, c'est très symptomatique de l'attitude des politiciens qui, à un moment, veulent dire quelque chose pour dire que oh, ça ne peut plus durer, il faut changer. Mais en même temps, en disant ça, ils ont bien conscience qu'ils risquent de perdre toute crédibilité au sein de leur groupe politique ou de perdre toute crédibilité tout court, notamment vis-à-vis des électeurs. Donc, du coup, tout de suite, ils reviennent en arrière. Voilà, c'est ben malheureux. Moi, je vous le dis, c'est ben malheureux. Voilà. Et ben, on va s'écouter un peu de musique en attendant, si ça ne te dérange pas. Allez, on revient tout de suite après. Je ne me rappelle plus quel morceau j'ai mis. Ah oui, ça doit être celui-là. Est-ce qu'on a deux platines ? Allez, à tout de suite après un petit morceau de 10 phases.
Funky beast from assault rifle. The Uzi.
I'm ready.
Jive.
I'm ready.
Retour à l'actu, toujours, vous êtes toujours avec nous dans l'émission Cannabis Circus, l'émission du Cirque Lyon, comme tous les lundis soirs de 21h à 22h. Nous décryptons l'actualité, l'info du cannabis et des drogues en général et des substances, quelles qu'elles soient, des substances qui chatouillent vos neurones et autres. Voilà, on continue. Alors, ensuite.
Alors, et ben surtout.
L'Express.
L'Express, voilà, qui pose la question. Pourquoi fume-t-on autant en France ? Donc, un truc bizarre, hein, parce que. 40,9% donc des Français de 15 à 64 ans ont déjà consommé du cannabis. Donc c'est normal vu que le pourcentage augmente régulièrement, vu que les jeunes Français sont ceux qui fument le plus, c'est plus que la moitié, au moins, voire les deux tiers, ont déjà fumé sur un joint. Donc c'est normal que plus de 4 Français sur 10 aient déjà fumé un joint d'année en année. Ce pourcentage augmente. Voilà, donc dans le reste du monde, de l'Europe, ce serait 23,3% et en France, c'est 40,9%. Voilà, alors qu'est-ce qui explique cela ? Une des possibilités, c'est la situation géographique avec la production venant du Maghreb qui est très disponible. Première raison, la deuxième raison, c'est qu'il y a un développement de la production interne avec de plus en plus de cannabiculteurs qui serait 200 000. Donc ce chiffre, on le rappelle, reste stable dans les statistiques depuis une dizaine d'années maintenant. Hein. Je pense qu'on a dû atteindre les 300 000, voire les 400 000 maintenant. Et enfin, la perception du produit et de la mode bio. Voilà, donc ça c'est vrai pour le cannabis de culture personnelle, quoique de temps en temps il est quand même bien boosté. Voilà, bon, ça c'est une question bizarre que ça m'a trouvé. J'ai trouvé cette raison bizarre. Et sinon, il me semble que tu avais une raison supplémentaire, toi. C'est...
Bah oui, une raison dont aucun expert ne parle, mais qui, à mon avis, est une partie, hein, qui n'est pas l'explication ultime, hein, mais qui est une partie de l'explication. Eh bien, c'est justement, qui est très spécifique à notre pays, hein, c'est que justement, on nous rebat les oreilles depuis je ne sais combien d'années, au moins une quarantaine. Pourquoi ? Ben, pour rien, parce que c'est la loi de 70. On nous rebat donc les oreilles depuis plus de 40 ans pour nous dire que la drogue c'est mal, qu'il faut pas fumer, que c'est dangereux, sinon on va mal finir, etc., etc., etc. Et que je pense que beaucoup de Françaises et de Français sont tout simplement, on peut dire à minima, pas du tout d'accord avec ces versions des choses, et que ça incite aussi à la consommation, d'avoir des discours complètement diabolisants et complètement erronés sur la question. Et ça, à mon avis, ça participe aussi d'un taux d'usage élevé.
Ah, donc
voilà. D'ailleurs, la preuve, c'est qu'il y a des pays où ils n'ont pas du tout ce discours aussi diabolisant et qu'ils ont des taux de consommation beaucoup plus bas.
D'accord, tout
même
à fait.
Si,
tout
il y a
fait,
d'autres raisons. Hein, je sais pas du
donc
tout.
Voilà, c'était les trois raisons. Donc on en a une quatrième, il y en a sans doute d'autres.
Oui, on a d'autres.
Parce que ça va être multifactoriel. Donc la quatrième, c'est les mensonges dans nos politiques depuis longtemps et la diabolisation du cannabis. Et bien sûr, nous sommes tous d'accord avec ça.
Oui, puis alors autre chose dans l'article de l'Express, je voudrais m'excuser auprès de nos auditeurs et auditrices, je ne suis pas sûr que ce qu'on a là sous nos yeux, ce soit l'article en entier.
D'accord.
Parce qu'on arrive quand même à avoir beaucoup d'articles et d'infos qui passent sur les réseaux sociaux ou sur les sites internet des journaux, mais maintenant, vous le savez, bon, c'est assez normal, hein, il faut être membre, il faut être abonné pour avoir l'article en entier. Et des fois, on n'est pas sûr de l'avoir en entier, on l'a un peu plus tard, voilà. Bon. Ça se trouve, il y a d'autres raisons qui sont expliquées dans l'article, mais en tout cas, on ne les a pas là ce soir.
D'accord, on n'a peut-être qu'un article tronqué. Voilà, sinon, donc, Le Parisien, qui a interviewé la présidente de la MILDECA. Vous saviez, la mission interministérielle de lutte contre les drogues et CA, je ne sais plus ce que c'est.
Et les conduites addictives.
Et les conduites addictives. Voilà, donc il y a un petit mieux dans le nom d'ailleurs, mais bon, en tout cas, c'est Danielle Jourdain-Ménager.
Qui est la présidente de la MILDECA.
Voilà, elle rappelle quand même que du 19 au 21 avril 2016, il y aura un débat mondial sur les orientations en matière de politique des drogues. Voilà, elle rappelle qu'il n'y a pas de société sans drogue, que c'est la réalité. Voilà, donc elle continue, des trucs assez intéressants, elle rappelle donc l'UNGAS en avril 2016, voilà, et la France apportera ses valeurs et son expérience sur le sujet, une approche pragmatique et non idéologique, rappelant qu'il fallait être attentif aux évolutions de la société comme les expériences étrangères de légalisation du cannabis, mais qu'il fallait aussi tenir compte de la spécificité de chaque pays au niveau social, culturel et sanitaire.
Juste, est-ce que tu peux peut-être rappeler...
C'est du bon verbiage politicien,
oui.
Énarque.
Peut-être rappeler aux auditeurs auditrices ce qu'est l'UNGAS, l'UNGA2S.
Oui, c'est l'Assemblée Générale des Nations Unies ouais, qui sera en session extraordinaire.
Voilà, et qui donc en session extraordinaire pour examiner ce point en particulier, parce qu'il y a quand même une pression assez forte maintenant qui vient d'Amérique latine pour demander un changement. Donc c'est bien, ça, voilà. C'est même extrêmement positif. Alors là, pour le coup, on va pas gâcher notre enthousiasme. C'est hyper positif que, enfin, en tout cas, voilà, ça arrive aux Nations Unies et ça arrive dans le cadre d'une session extraordinaire.
Voilà. Donc, en plus, là, c'est Michèle Ramis, ambassadrice chargée de la lutte contre la criminalité organisée, qui rappelle qu'il faut se donner du temps quand même pour analyser tout ça, que l'Uruguay vient de légaliser, et qu'il faut attendre pour savoir ce qui se passe exactement, parce que c'est un pays qui a contrevenu aux traités internationaux. Je rappelle à ces droits d'homme que certains États des États-Unis contreviennent aussi à ces mêmes traités internationaux. Et ceci est une parenthèse. Enfin, elle a rappelé donc qu'il y a la réunion de l'ONU et que c'est surtout les États d'Amérique latine, comme la Colombie, le Mexique, le Guatemala, qui demandent de revoir cette politique mondiale en matière de drogue et de réfléchir à des approches alternatives.
Oui, et qu'ils le demandent tellement qu'on a avancé de 3 ans. La date de cette Assemblée Générale extraordinaire.
Tout à fait, on l'annonçait
en 2019 au départ.
Oui, tout à fait. C'est exact.
Et que du coup, sous la pression, ils se sont dit, ah bon, on va quand même avancer.
On va peut-être essayer d'avancer.
Ouais, ouais. De 3 ans, ouais.
Et c'est peut-être un aspect positif. Bon, on va croiser les doigts, hein, là aussi, il va peut-être falloir qu'on se réveille tous. Et elle continue, alors c'est là que c'est presque à mourir de rire, hein, ce qu'elle écrit quand même. C'est que la France, comme la plupart des pays d'Europe et d'Australie, se trouve dans une position médiane. La France, qui est le pays le plus répressif en position médiane, c'est quand même assez fort. Entre le bloc narco-libéral, composé essentiellement des pays d'Amérique, qui remettent en cause les traités internationaux et la prohibition, et un bloc conservateur répressif, peut porter sur la répression, composée notamment par la Russie et en grande partie des pays d'Asie, d'Afrique et du Moyen-Orient. Ça, c'est assez vrai. Par contre, il est faux de dire que la France, actuellement, se trouve en position médiane. Hein, parce que je pense que la France est quand même dans les pays répressifs.
Ouais, d'une part, dans les pays répressifs... Et ce qui est quand même fou, c'est de, comment dire, un bloc conservateur répressif et porté à la prévention, composé notamment de la Russie. Alors la Russie, bah, c'est pas si simple, parce que vis-à-vis du cannabis, on a lu quand même plusieurs fois qu'ils étaient globalement plutôt tolérants, et que même il y avait des voix assez hautes, hein, dans la hiérarchie politique, qui réclamaient une dépénalisation, voire une légalisation.
D'une certaine façon, c'est vrai, puisque l'usage est autorisé, et quasiment pour tous les produits, on peut avoir une quantité réglementée sur soi. Donc c'est 2 grammes, je crois, pour l'héroïne ou la cocaïne, c'est quelques grammes pour le cannabis, etc., etc., etc. Et pas mal de produits sont cités, y compris des substances...
Jugées plus fortes.
Oui, plus fortes ou nouvelles, quoi, pas naturelles.
Alors après, par contre, en Australie, en Russie, ils sont quand même particulièrement en retard sur les programmes de réduction des risques, notamment pour les drogues injectables et l'héroïne, notamment, ou ce qui peut être utilisé en injection. Et que là, par contre, ils sont plutôt en retard, voire ils mettent en place des mesures carrément criminelles. Que je qualifierais de criminel, ou en tout cas de non-assistance à personne en danger, notamment au niveau de la santé, quoi. Et donc voilà, au niveau du sida aussi, ils sont pas du tout au point. Il y a beaucoup d'alcool frelaté qui circule. Enfin voilà, il y a quand même.
Ils sont pas au point sur toutes les drogues.
Non, hein, pas du tout.
La Russie, avec leur dictateur, c'est sûr qu'ils sont pas au point.
Voilà.
Voilà, mais bon. C'est vrai que par rapport aux États extrémistes et totalitaires, la France est une position médiane. Ouais, c'est vrai. On va dire ça comme ça. N'empêche qu'on reste un pays les plus répressifs et qu'on est quand même assez, et qu'on a des gouvernements assez obtus sur la question.
Ouais, carrément.
Ouais, tu voulais rajouter quelque chose ?
Non, je voulais juste un peu terminer par rapport à cet article. Et puis un peu d'autres choses qu'on a pu voir un peu avant dans la soirée, mais voilà, on nous rappelle que le 26 juin, c'était la journée internationale de lutte contre l'usage de drogue. Mais dans cet article du Parisien, les journalistes ont. On n'a pas raté l'occasion de mentionner la campagne Support Don't Punish, qui est aussi le 26 juin et qui a été créée en réaction à cette journée internationale de lutte contre l'usage de drogue. Et donc la campagne Support Don't Punish, qui est une campagne internationale visant à soutenir les usagers de drogue qui sont souvent criminalisés. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Et qu'il y a eu un rassemblement à Paris en fin de journée le vendredi dernier, donc le 26 juin. Il y a aussi eu des rassemblements à Marseille, à Montpellier. À Paris, je l'ai déjà dit, à Toulouse aussi, me semble-t-il, et puis dans une cinquantaine de villes du monde, d'une centaine de pays.
Voilà, donc encore des concurrents sur le marché de la légalisation, donc un mouvement Support Don't Punish, tant mieux si on est de plus en plus nombreux, hein. Peut-être qu'une méthode sera plus efficace que les autres.
C'est pas un mouvement super populaire, hein, par contre, hein. Mais bon, ça a le mérite d'exister, et il faut soutenir l'initiative, voilà.
Tout à fait. Et d'ailleurs, pour compléter l'article qu'on vient de lire, je vais passer très rapidement sur un article du Figaro sur la légalisation du cannabis, l'Amérique latine pour. Voilà, donc comme c'est vrai que c'est à l'initiative un peu des États d'Amérique du Sud qui en ont vraiment marre de l'approche prohibitionniste, voilà. Et donc sur une question, c'est un think tank qui a réfléchi là-dessus, justement sur les approches prohibitionnistes qui ont échoué. Et ils ont montré que quasiment presque 60%, 56-57% des personnes répondent par l'affirmative à la question de savoir si le cannabis devrait être légal. Donc ça c'est une étude a priori sur toute l'Amérique du Sud avec Bolivie, Salvador où il reste une opposition forte et par contre Chili où l'approbation est la plus haute. Donc voilà, ça, les choses sont un petit peu ambiguës, quoi, elles changent d'un pays à l'autre, mais en tout cas la majorité est passée et beaucoup de ces pays ont envie et vont sans doute légaliser à l'instar de l'Uruguay, que l'on suit toujours avec attention.
Alors du coup, vu que tu es un peu avec l'Amérique latine, je te propose qu'on continue et qu'on parle un peu du contre-exemple
de Cuba.
D'Amérique centrale plutôt que latine, même si ce sont des latins, et ben c'est Cuba. Cuba, j'ai envie de dire, fidèle à sa réputation en ce qui concerne les droits humains de minorités ou d'usagers de drogue, mais ils sont également extrêmement sévères, extrêmement, je dirais, mauvais d'un point de vue santé en ce qui concerne les travailleuses et travailleurs du sexe. Il y a un taux de sida à Cuba qui est extrêmement élevé, donc une forte criminalisation des usagers de drogue, des prostituées, voire une incarcération systématique ou très très répandue. Donc bon, on n'est pas très surpris de lire que Monsieur González, spécialiste du traitement des addictions à l'hôpital psychiatrique de la Havane, s'exprime ainsi à propos du cannabis et disent, alors je trouve assez drôle, on rit jaune, hein, mais bon, il dit comme ça, voilà, ceux qui en proposent la légalisation du cannabis ne se rendent pas compte de la répercussion à la maison, au travail et au sein de la communauté, des effets sur le cerveau de cette drogue qui en bloque la partie rationnelle et en libère les structures et fonctions les plus primitives. Waouh, on se croirait, on dirait des propos de Gabriel Naas dans les années 80. Donc voilà, à Cuba, c'est pas encore à l'ordre du jour la légalisation. Et c'est bien dommage. L'ancien guérillero et ancien président uruguayen José Mujica a pourtant resté un long moment à Cuba, mais bon, à l'époque, il était peut-être pas dans ses préoccupations. En tout cas, Cuba, c'est pas encore le moment. Je pense qu'il faudrait un renouvellement de beaucoup des cadres de politique, également dans la santé à Cuba, pour qu'on voit émerger un autre point de vue.
Voilà. On se fait un petit coup de musique.
Eh ben, un petit coup de musique. Tout à fait, un petit Tiken Jah Fakoly, allez, tout de suite.
Où veux-tu que j'aille? Pourquoi veux-tu que je m'en aille? Où veux-tu que j'aille? T'as brûlé ma maison d'Abidjan parce que je ne suis pas de ton clan. Mon grand-père t'a tout donné, mon papa a tant sué. Moi je suis né là. Pourquoi veux-tu que je m'en aille? Prends la racaille. Où veux-tu que j'aille?
Où veux-tu que j'aille?
Pourquoi veux-tu que je m'en aille? Où veux-tu que j'aille?
Je suis né à bord de Garonne, tu vois. Y'a pas meilleur curriculum, y'a pas dit-on, meilleur pédigré. J'avais un beau teint tigré. V'là que je suis tombé, côté face de la pièce, pile dans le délit qu'on appelle le faciès. Où veux-tu que j'aille? Pourquoi veux-tu que je m'en aille? Où veux-tu que j'aille? Pourquoi veux-tu que je m'en aille? Moi longtemps, j'ai été pour la loi. Va pour nos ancêtres les Gaulois. Je disais même, pour entrer dans le moule, allez ça roule. Là je suis tombé, côté face de la pièce, pile dans le délit qu'on appelle le faciès. Alors, où veux-tu que j'aille? Pourquoi veux-tu que je m'en aille? Où veux-tu que j'aille? Pourquoi veux-tu que je m'en aille?
France n'est là. Exilés sans autre choix, nos grands-pères se sont sacrifiés, nos papas se sont intégrés. Même si on nous traite d'étrangers, pourquoi veux-tu qu'on s'en aille? Prends la pagaille, où veux-tu qu'on aille?
Où veux-tu qu'on aille?
Mais où veux-tu que j'aille? Pourquoi veux-tu qu'on s'en aille?
Où veux-tu qu'on aille?
Où veux-tu qu'on aille?
Où veux-tu qu'on aille?
Eh ben, on tourne dans notre revue de presse après Tiken Jafakoli avec Zebda. Où veux-tu que j'aille?
Ouais, avec un article de Nouvelle Obs, donc sur Génération H par Alexandre Grondon, qui est maître de conférence à l'université d'Aix-Marseille. C'est pour vous dire comme c'est quelqu'un d'important. Donc, qui a travaillé sur qui est la génération H. Des avocats, des profs, des infographistes, des pères de famille. Ils ont tous un point commun, ils fument du cannabis. Et oui, monsieur Grondeau, et oui, c'est bien, c'est intéressant tout ça. C'est ce qu'on dit depuis longtemps, c'est ce que montrent toutes les statistiques, c'est que quel que soit le niveau social, eh ben, il y a toujours un petit pourcentage de ces gens qui fument. Donc ça va à 5% en moyenne, mais ça peut être plus, ça peut être moins. C'est vrai dans tous les pays et dans toutes les classes sociales. Donc ça va de 3 à 8% en général, selon les pays, selon les classes sociales, etc. Voilà ce qu'on peut dire. Donc qu'est-ce que dit ce livre? Ben, que ça serait importé depuis des Pays-Bas. Hein, la marijuana est désormais produite sur le sol métropolitain par les citoyens. C'est bien, donc phénomène massif et en pleine augmentation. Donc on disait tout à l'heure qu'on l'évalue à 200 000 par rapport à tous les rapports qu'on voit depuis quelques années. Lui ne donne plutôt que des centaines de milliers d'autoproducteurs, dizaines de centaines de milliers.
Dizaines de milliers, ouais. Dizaines ou centaines de milliers.
Ah, des dizaines ou des centaines de milliers.
Et oui, on sait pas bien.
Donc il dit pas bien. Bon, pour l'instant, le chiffre officiel ou officieux est de 200 000. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Il est sans doute beaucoup plus important.
Oui, et puis alors ce chiffre de 200 000, en fait, il date d'il y a 8 ans.
Oui, tout à fait.
Ça date de cannabis données essentielles 2007. Parce que c'était déjà à peu près ça, de 200 000.
Donc si c'est en constante augmentation, on devrait plutôt être aux alentours de 300 000, 400 000, voire le demi-million.
Bah...
Sachant que la consommation et que la frange de la société qui consomme concerne plusieurs millions de personnes. En particulier de ceux qui consomment du hash, puisqu'a priori ça reste toujours plus répandu sur le marché noir. Et que les cannabiculteurs sont loin d'être majoritaires dans les consommateurs. Voilà, ceci dit, qu'est-ce qu'on peut rajouter? Que bon, la génération H est insérée dans la société. C'est pas nous qui dirons le contraire. Voilà, donc ça peut être des avocats, des profs, des pères de famille.
Ouais, moi, ce que j'ai envie de dire, c'est oui, voilà, mais bon, ce que j'ai envie de dire, c'est que cette population dont parle Alexandre Grondeau, qu'il décrit comme des gens entre guillemets normaux, sont globalement ceux qui échappent à la répression.
Tout à fait.
Voilà. Donc c'est des jeunes ou des gens ou des individus, hommes, femmes, qui visiblement, d'après ce qu'on peut lire, hein, ne vivent pas dans des quartiers, ne sont pas issus des minorités visibles, c'est-à-dire des personnes qui sont systématiquement contrôlées, contrôle au faciès, arrestation. Voilà, donc
oui,
c'est intéressant de dire ça aussi, effectivement, pour dire que voilà, les consommateurs de cannabis sont pluriels, sont divers.
Voilà, et ça concerne toutes les classes sociales, tous les niveaux sociaux. Et d'ailleurs, avec contrairement à certaines idées reçues, les classes sociales défavorisées ou les basses classes sociales consomment moins que les hautes classes sociales.
Eh oui, une étude de l'OFDT de 2005.
Voilà, donc c'est quelque chose qu'il faut rappeler, parce qu'on dit toujours que en banlieue on fume plus. Et ben c'est pas forcément vrai, loin de là. Et qu'en banlieue on dit
on le dit le plus. Eh ben, ce n'est pas non plus forcément vrai, parce que on a beaucoup d'articles qui nous rappellent que notre dealer ne s'appelle pas ni Rachid ni Mohamed. Voilà, c'est juste pour de rappeler des choses quand même qui sont exactes, mais et contrer les idées reçues du maghrébin dealer, ce qui n'est pas plus le cas. C'est plus visible sans doute, c'est moins discret puisque c'est le deal de rue, mais c'est sans doute pas majoritaire.
Pas plus aujourd'hui en tout cas, et puis peut-être même ça ne l'a même jamais été d'ailleurs.
Voilà, bon, on a dévié un petit peu de cet article. Qui reste intéressant. Il cite pas mal d'hommes, quelques femmes, moins a priori, des vapoteurs, des mariés, des concubinés, des, voilà, il y a de tout. Une vendeuse aussi qui est célibataire. Voilà, on a
des profs.
Tout le panel. Donc un bon mélange avec même des noms maghrébins. Donc on va dire ça représente la consommation des fumeurs. Mais bon, il avance pas à grand chose. Bon, et en plus, on peut pas se fier à tout puisque tous ces prénoms sont des prénoms d'emprunt. Donc,
oui, mais bon, puisqu'aujourd'hui, être fumeur de pétard est interdit par la loi.
N'empêche, qui finit en disant, doit-on continuer à les considérer comme des criminels quand les pays comme les États-Unis, l'Allemagne, l'Espagne, le Canada, les Pays-Bas ont tous constaté l'échec des politiques prohibitionnistes et les ont remplacées par des politiques plus compréhensives des usagers. Voilà. Donc, génération H. Dans le Nouvel Obs. On continue ?
Oui, un petit point de vue, un petit billet sur la page blog du Huffington Post version québécoise que j'ai sélectionné pour notre revue de presse parce que je trouvais que ce petit point de vue, cette petite analyse était assez pertinente.
Il appelle ça santé mentale du cannabis et cannabis, remettre les pendules à l'heure.
Voilà. Donc, en gros, de quoi qui dit ce fameux Étienne Parent ? Donc, il nous dit que voilà, après une série d'articles parus récemment sur différents sites de nouvelles et cherchant obstinément à montrer l'existence d'un lien entre la consommation de cannabis et le développement de maladies mentales chez les jeunes adultes, certains points sont importants sont à souligner. Alors que la légalisation devient une option envisageable inévitable, une discussion sur le sujet s'impose. Voilà. Donc voilà, on va rentrer dans le.
Voilà, donc il rappelle que beaucoup de gens ont une connaissance très succincte du cannabis, en particulier dans la sphère de la santé et chez certains spécialistes. Donc c'est très très grave. Hein. Il reste sur des idées reçues plutôt que aller dans le fond du sujet.
Alors du coup, il prend un exemple. Voilà, il mentionne l'article de Di Forti et Comparse, cité par Radio-Canada dernièrement, qui affirmait que le cannabis de type skunk, ayant une concentration en THC plus grande que le hashish, était plus enclin à induire des psychoses. Et un peu plus loin dans l'article, le terme skunk, nous dit-il, est brièvement défini comme étant du cannabis à haute puissance. Par contre, cette définition est complètement absurde. Ce terme fait plutôt référence au skunk numéro 1, un croisement entre différentes souches primitives du Mexique, de la Colombie et de l'Afghanistan. Son nom lui a été attribué pour son phénotype présentant des réminiscences de moufette. Alors là, je n'ai pas compris ce que c'était. Et non pour une concentration en THC plus élevée que la normale. Le hashish, quant à lui, est obtenu par un procédé de concentration de la plante. On cherche à enlever la matière végétale afin de ne conserver que la résine contenant des molécules à potentiel médicinal. Donc en fait, voilà, qu'est-ce qu'il veut dire ? C'est qu'avec ce manque de rigueur dans l'étape la plus fondamentale de l'étude, ben, les conclusions tirées par cet article scientifique sont hâtives et donc forcément la fiabilité est discutable.
Tout à fait, dans le même sens. Son deuxième membre, c'est l'approche considérant que systématiquement la consommation de cannabis comme un santé de toxicomanie, comme un problème de toxicomanie. Et donc il avance, surtout qu'il rappelle qu'à l'adolescence, il est bien connu que les troubles anxieux peuvent faire leurs apparitions et qu'ils sont souvent accompagnés par des dépressions. Et que le cannabis peut fournir des bienfaits thérapeutiques pour une variété de conditions. Donc le lien entre causalité...
Le lien de causalité serait-il à inverser ? Voilà,
est-ce que... Bah, c'est d'ailleurs une question qui nous taraude depuis une vingtaine d'années. Qui, si c'est que le nombre de fumeurs continue à augmenter, si elle était vraie, s'il y avait lien de causalité, il y aurait une explosion de problèmes psychiatriques, ce qui n'est pas totalement le cas, et en tout cas, tous les syndromes liés au cannabis ne sont pas forcément à mettre avec. Donc le lien de causalité est sans doute à inverser.
Voilà, après c'est intéressant ce qu'il dit, parce qu'il dit voilà, en posant la question « Pourquoi consommes-tu le cannabis ?», on peut se rendre compte, dit-il, qu'il atténue les symptômes, ou qu'il atténuerait les symptômes d'une condition médicale présente, mais non diagnostiquée. Ainsi, avec la prise de conscience du problème de santé sous-jacent à la consommation, il est possible d'envisager des voies de traitement complémentaires à l'utilisation de cannabis thérapeutique, comme la psychothérapie. Voilà. En plus de briser la double barrière tabou par une discussion sur la santé mentale et le cannabis, cette prise de position concrète sera bénéfique. Elle apportera une meilleure compréhension de soi ainsi que des comportements délétères associés à l'état de santé mentale. Bref, l'utilisation quotidienne de cannabis peut, chez certaines personnes, être une partie intégrante d'un mode de vie pourtant sain.
Voilà, et j'aime bien cette conclusion. Hein. Bref, l'utilisation quotidienne de cannabis peut, chez certaines personnes, être une partie intégrante d'un mode de vie sain.
Voilà, c'est vrai que c'est assez... J'ai voulu le mettre, en parler, parce que dans notre revue de presse, parce que c'est pas forcément très souvent qu'on lit des propos comme ça, visiblement au Canada ou au Québec. C'est plus
voilà, pour l'air du temps. Je crois qu'on va bientôt arrêter l'émission.
Ouais, il nous reste 2 minutes, mais on a deux minutes quand même.
On va juste évoquer le Colorado.
Pour dire très vite.
Qui
voilà.
a gagné tellement d'argent grâce à ses impôts et à ses taxes cannabis qu'il va falloir qu'il en rembourse une partie à ses contribuables. Donc, ils vont sans doute être gentils. Donc, c'est le Figaro qui en parle. Ça fait déjà quelques mois qu'on le sait.
Ouais, alors bon, pour l'instant, en fait, ils savent pas trop s'ils vont vraiment rembourser les contribuables. Ils vont voter, en fait, pour ça.
Pour savoir s'ils le remboursent ou s'ils font d'autres choses.
Ouais, parce qu'ils ont un 30 millions de dollars de trop perçus. Alors, ils savent pas trop s'ils vont... consacrer ces 30 millions pour financer la construction d'écoles et d'infrastructures, ou bien s'ils doivent les rendre, auquel cas ça représenterait 7,63 dollars par habitant à rembourser.
Voilà, mais je pense qu'ils devraient l'utiliser à la construction de crèches
d'écoles et tout ça. Ouais. Mais ils ont, le pire, c'est que ça a déjà été fait, je crois. C'est qu'ils déjà, ils ont utilisé une partie de l'argent pour ça, et
ils peuvent encore en faire plus. Tout à fait.
Et alors,
c'est très 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 bénéfique. Hein, comme on ne rappellera jamais assez, hein, une école qui ouvre, c'est une prison qui ferme.
Voilà. Alors comme effectivement ils ont trop perçu, il va falloir qu'ils changent un peu la loi localement. Et donc pour ce faire, ils vont moins taxer le cannabis. Ils vont faire passer la taxe de 10 à 8% du prix de vente à partir de juillet 2017 pour être dans les clous au niveau financement.
Voilà. Et donc on ne parlera pas, pour conclure, du Maroc. Et
bon, on en a déjà parlé.
On en a parlé un petit peu au début.
Juste toi, on peut juste rappeler que
j'avais été un petit peu long dessus.
On peut juste en parler un tout petit peu, qu'au Maroc, ils se sont aperçus qu'il y avait des... malgré la lutte contre les surfaces cultivées, il y avait toujours autant de production, et que y en a qui ont amené des variétés... néerlandaise, ou des variétés européennes
plus rentables.
Plus rentables, ouais.
Voilà, ce qui expliquerait que le taux moyen de THC augmente depuis quelques années, depuis les années 80-90, voilà. 2000, où le cannabis restait à 7-8%, ouais. Voilà. Et que maintenant il serait plutôt aux alentours de 14-15-16%.
C'est plus le kiff traditionnel cultivé, mais c'est un peu un kiff 2.0 au Maroc, voilà. On va se quitter là-dessus. Donc, je vous rappelle que Cannabis Circus est une émission qui vous est proposée par les bénévoles du Cirque Lyon, le collectif d'information et de recherche cannabique lyonnais, que vous pouvez contacter par téléphone au 06 11 53 10 07. Vous pouvez visiter notre site internet www.cirque-lyon.fr. Nous envoyer un petit mail à l'adresse suivante cirque-lyon@no-log.org. Ou nous écrire Cirque Lyon, BP 93 043 69 605 Villeurbanne Cedex. Et que voilà, si vous avez envie d'aller faire un petit tour au festival Zion Garden à Bagnols-sur-Cèze du 20 au 25 juillet, eh bien c'est une bonne idée, et qu'en plus vous pourrez y retrouver le cirque qui tiendra un stand toute la semaine dans le village associatif du festival Zion Garden à Bagnols-sur-Cèze. On en reparlera encore la semaine prochaine. Je vous remercie de votre fidélité, de nous écouter tous les lundis soirs à cette même heure depuis de nombreuses années. Et maintenant, c'est Chasseurs de Sons jusqu'à tard, au moins 23h.
23h. Ouais, ciao à tous, ciao voilà. À tous.
Bonne soirée, à la semaine prochaine. Au revoir.